Donc petit à petit, tous les mineurs vont aller consommer les surplus sur le green. Il y en a énormément. Il y a de quoi faire tourner 15 réseaux Bitcoin sur les surplus des ENR aujourd'hui. Admettons que l'entreprise fasse 100 de chiffre d'affaires, ils ont du surplus, ils vont rajouter du mining, et d'un seul coup, ils vont se retrouver à faire 120 de chiffre d'affaires en n'ayant rien investi, en n'ayant rien fait d'autre que de nous laisser venir. Et c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, EDF a 3 milliards de trous. Ils sont en train de licencier des agents et tout ça parce qu'ils sont en difficulté. Si on avait miné depuis 2017, c'est ce que je leur proposais, les 3 milliards, on les avait, hein.
Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bonjour, et bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et de minage. On parle souvent de Bitcoin et d'environnement, donc cet épisode sera l'occasion de faire le point sur la réalité de l'industrie de l'énergie. J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, tu comprendras mieux pourquoi les critiques environnementales du Bitcoin sont complètement à côté de la plaque. Pour aborder ce sujet, je rencontre Sébastien Gouspillou, fondateur de Big Block Data Center. Sébastien travaille dans l'industrie du minage depuis un paquet d'années, et je pense que c'est un des experts français les plus calés que j'ai entendus dans l'industrie. J'ai voulu le rencontrer pour qu'on puisse en apprendre plus sur les enjeux du minage dans le monde réel. Dans l'épisode 5, je t'expliquais ce qu'est le minage sur le plan théorique, mais dans la pratique, le minage, ce sont des entrepreneurs comme Sébastien qui parcourent le monde à la recherche d'opportunités et d'énergie à bas prix. On parlait depuis un petit moment quand mon ordinateur m'a lâché, donc la première partie de l'interview a disparu dans le néant. Désolé. Voici le contexte qu'on avait exploré au moment de l'interview avant que ça s'arrête. Je lui avais demandé quel était le projet dans lequel il avait participé au parc des Virunga, qui est un parc national du Congo. Alors, l'idée du projet, c'est que le parc a des centrales hydroélectriques qui produisent un surplus d'énergie. En d'autres termes, il y a de l'électricité disponible, mais personne pour la consommer. Ça, c'est problématique, parce que cette électricité, ça vaut de l'argent. Donc, ne pas pouvoir récupérer cet argent, c'est un peu comme si le parc faisait un feu avec personne pour se réchauffer. Le job de Seb, c'est d'avoir amené le feu digital Bitcoin. Le réseau Bitcoin rachète toute cette énergie inutilisable pour alimenter la preuve de travail nécessaire à son fonctionnement. On a alors un échange gagnant-gagnant parce que le parc a plus de revenus et Bitcoin a plus de sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie n'est pas connectée au réseau électrique, donc ce n'est pas de l'énergie qui aurait pu servir à alimenter d'autres besoins. Cette manne financière qui apparaît permet au parc de sauver ses finances dans une situation où ses revenus liés à l'écotourisme se sont effondrés suite au choix des gouvernements quant au Covid. Ensuite, dans l'interview, Sébastien va expliquer pourquoi le minage est amené à devenir presque exclusivement vert dans les prochaines années et pourquoi le gouvernement français s'assoit sur une source de revenus immense par manque de vision. Cet épisode est très dense et je pense très intéressant, alors profites-en bien. Avant de commencer, pense à rejoindre le groupe Telegram, l'endroit idéal pour venir poser des questions à d'autres Bitcoiners. On est 99 au moment où j'enregistre. Et enfin, si tu aimes le travail que je fais et que tu veux soutenir le podcast, le plus simple qui va être gagnant pour toi et moi, c'est de commencer à me streamer des sats avec le wallet Breeze. Tu peux décider de me streamer 1 centime par minute, c'est déjà énorme, parce qu'avec le temps, ça finira par payer mon loyer. Ça, c'est la partie où moi je gagne. La partie où toi tu gagnes, c'est d'une part avec le podcast bien sûr, mais tu vas aussi gagner en termes de connaissances Lightning et Bitcoin en te mettant un peu plus à l'eau. Ça va t'obliger à télécharger un wallet, prendre possession de tes clés et enfin vérifier que tout ça est plus simple qu'il n'y paraît. Et crois-moi, te faire tes propres armes maintenant, c'est vraiment une très bonne idée qui te mettra sur un chemin de souveraineté sans fin. Les liens pour télécharger ces applications-là sont dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti pour l'épisode avec Seb, reste humble, stack des sats, rayonne, vis sur nous. Bon, je crains qu'on a perdu la première partie.
Ah non.
Ouais, c'était un gros freeze bien bâtard quoi.
Genre, on a causé pour rien?
Non, on avait beaucoup de plaisir et on a appris plein de choses.
Mais tu t'as pas enregistré, c'est ça que tu me dis.
Mais ça l'a pas gardé, je crois.
Enfin, merde, bon, ben, c'est pas grave, écoute, je ferai mieux, je vais faire mieux ce coup-là.
Ouais.
Bon, alors, dans quelle heure on pourrait repartir? J'ai pris des notes. On va voir si on peut rediscuter. Je pense que je vais te reposer des questions peut-être sur le Pari des Virunga.
Ouais. Ça te va? On recommence.
Ouais, sur le Pari des Virunga, et puis on va repartir un peu en freestyle comme on faisait. Et
puis, ouais. Allez, les gars de Skinsat sont en réunion, donc je pense qu'on a un bon quart d'heure devant nous, facile.
Ok, un quart d'heure, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Parcs des Virunga? Comment s'est passé le projet et puis pourquoi c'était intéressant pour les promoteurs d'installer des mineurs là-bas?
Bah, c'est une configuration assez représentative de notre métier, c'est-à-dire que là, ils ont créé une nouvelle centrale. Et évidemment, le réseau n'est pas fini de construire. La clientèle n'est pas encore là. C'est assez systématique hein, sur une création de nouvelles centrales dans des régions où il n'y a pas de réseau. Et donc, on vient pomper une partie de ces surplus avec le mining de manière très raisonnable. Hein. Ils insistent pour qu'on se développe de manière vraiment raisonnée et qu'ils nous ont donné une petite partie de leur surplus, quoi. Parce qu'ils savent très bien que ces surplus vont se réduire au fil du temps. Donc aujourd'hui, on a une manne financière très importante pour les finances du parc parce qu'on leur achète cette électricité perdue. Et c'est à un moment très important pour leurs finances parce que le Covid a fait qu'ils n'ont plus de tourisme. Et l'écotourisme a représenté 40% du chiffre d'affaires du parc. Donc ça tombe à point nommé. Et là, ils ont une idée de génie de nous faire venir parce que c'est eux qui nous ont contactés en 2019. Et donc, on mine là-bas depuis septembre 2020. Et bon, c'est une évidence maintenant pour la direction du parc qu'on est très utile au développement et aux finances du parc. C'est un budget très important. Ils ont 850 ou 900 rangers à payer, plus tous les permanents du parc qui travaillent à d'autres tâches que la sécurité du parc. Donc, c'est un gros budget. Hein. C'est un budget d'1 million par mois, le parc à faire tourner, quelque chose comme ça. Et ben, il faut trouver de l'argent. Et donc, nous, on apporte cette somme très régulière tous les mois. Et c'est un vrai soulagement pour eux.
T'as dit qu'ils vous donnent une partie des surplus, ça veut dire qu'il y a d'autres surplus qu'ils ne vous donnent pas? Est-ce que c'est...
Oui, bah pour les garder immédiatement disponibles pour la population, c'est toujours la priorité, hein, c'est d'amener l'électricité aux populations pour le développement de la région. C'est évidemment pas la finalité, c'est pas de faire du mining. C'est toujours une solution provisoire et qui peut rester éternellement sur une centrale pour servir après de talons de consommation. Mais de manière vraiment... un petit mining sur une grosse centrale est toujours cohérent.
Ok. Et pourquoi est-ce que ce serait cohérent un petit mining sur une grosse centrale? Est-ce que c'est pour ajuster la charge?
Oui, c'est exactement ça. C'est pour, disons que la centrale va être en capacité, elle va tourner à 100% pour gérer les pics. Et quand il n'y a pas de pic, elle va pas travailler à 100%. Donc, hors période de pic, on peut activer les conteneurs. Il faut envisager, quand on sert de talon de consommation, qu'on ne va pas faire du mining habituel, c'est-à-dire qu'on ne va pas miner 100% du temps. Il faut l'intégrer dans nos calculs économiques. Mmh. Et en fonction de si c'est 80% du temps qu'on tourne, par exemple, on ne va pas mettre les mêmes machines que si c'est 100% du temps. Si on tourne 60% du temps, on va mettre des vieux S9, par exemple, parce que c'est plus facile à rentabiliser. Donc, on peut se permettre de les faire travailler que 60% du temps sur du long terme. C'est tout à fait envisageable. Donc, on adapte l'offre en fonction de la vie de la centrale, de sa clientèle, de la clientèle attendue à court terme, à moyen terme, à long terme. Et si c'est fait en amont de manière réfléchie avec le producteur d'électricité, c'est win-win.
Ouais, en fait, c'est un scénario où vraiment le producteur il peut signer les yeux fermés. Une fois qu'il a lu toutes les conditions d'électricité, de puissance économique, il a pas vraiment de perte possible, quasi.
Ah non, c'est parce que nous, il n'est pas impliqué par le Bitcoin, par le cours du Bitcoin, la volatilité et tout ça. Et lui, il vend l'électricité. Quoi qu'il arrive, à la fin du mois, il reçoit exactement la même somme. Donc, c'est quelque chose de très régulier, très confortable pour eux.
Ouais. Et c'est vous qui devez gérer votre risque en fonction du prix que vous achetez aux vendeurs. Et du
exactement.
Coup, ça, c'est votre business, quoi.
Exactement. Donc, c'est pour ça que les mineurs achètent l'électricité pas cher aux producteurs d'électricité. Hein. C'est parce que il faut que ce soit pas cher pour que ça reste viable pour le mineur et qu'il soit certain de pouvoir payer son jus. S'il achète le jus trop cher, il y a un moment, en 2018 par exemple, nous on était en France, on payait l'électricité 10 centimes. Quand le marché s'est retourné, on était plus rentable à 10 centimes. Donc là, d'un seul coup, on payait plus d'électricité parce qu'on était plus rentable. Donc on a arrêté notre exploitation. C'est pour ça que la négociation du prix est très importante. Et c'est aussi pour ça que on est vraiment le client de dernier recours et en fait, on n'est pas intéressant. S'il y a une autre clientèle en face, on est évidemment économiquement plus intéressant pour le producteur d'électricité. Donc là, il nous dit, maintenant, j'ai plus besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on fait des solutions mobiles.
Ouais. Je vais insister là-dessus pour que les gens comprennent bien. Ça veut dire que le mineur, c'est vraiment, comme dit Seb, le client de dernier recours. Et pour peu qu'il y ait un autre client, donc un humain, un hôpital, une usine, n'importe qui, ces personnes-là sont prêtes à payer l'énergie plus chère. Donc, le mineur vient juste là où il y a de l'énergie en trop, quoi. Sinon, c'est plus avantageux pour le producteur électrique de le vendre à quelqu'un d'autre.
Bah, bien sûr, c'est évidemment plus avantageux, oui. Et puis surtout, c'est sa finalité. Il n'y a pas un producteur dans ces pays-là, dans ces régions-là. Tous ces producteurs-là ont l'objectif de développer leur région, d'amener l'électricité aux populations pour pouvoir amener de l'industrie, du commerce. Enfin, tu vois bien, sans électricité, tu peux rien faire. Tu peux pas créer un petit garage, tu peux absolument pas avoir d'activité économique. Donc, c'est indispensable. Et la finalité des producteurs, c'est de développer leur région, c'est pas de développer du mining, bien sûr. Mais ça ne sera jamais le cas, parce que la différence de prix est telle que de toute façon, économiquement, il n'y a aucune logique à garder du mining si tu as une clientèle concurrente. Ça, c'est certain.
Ouais, ouais.
À titre d'exemple, hein, en Afrique, le prix de l'électricité est cher. La population paye entre 20 et 25 centimes le kilowatt. Mm-hmm. Un mineur va acheter l'électricité entre 2 et 5 centimes. Donc, ah ouais. Évidemment, dès que tu as une clientèle en face, le mineur… il ne va pas garder la priorité. Il faut qu'il s'en aille. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on inclut dans nos contrats et qu'on explique bien. C'est qu'on ne sera jamais un boulet pour eux, qu'on ne sera jamais une clientèle exigeante qui dira bah, « Attendez, nous, on est là. Il n'est pas question qu'on s'en aille. » C'est vraiment, ce deal-là est très clair au départ. On est là tant qu'on est utile.
Ouais. Donc, ça reste un win-win du début de la coopération jusqu'à la fin quand vous partez, quoi.
Exactement. Okay. Exactement. Et souvent, l'idée, c'est qu'on ne parte pas complètement, qu'on laisse un petit mining justement pour gérer les pics.
Ok. Avant que ça coupe, tu disais que les électriciens écoutaient en fait tes apparitions dans les différents médias et qu'au début, c'est vous qui alliez vers eux et qu'ensuite, c'est eux qui viennent vers toi pour comprendre l'idée qu'il y a du surplus, puis ils se posent la question de comment ça marche d'intégrer le mining. Est-ce que tu pourrais répondre justement à un électricien entre guillemets qui serait en train d'écouter ce podcast? Qu'est-ce que vous faites avec le surplus? Comment ça marche? C'est quoi le business un peu que vous proposez?
Le business, c'est ça, hein, c'est devenir un client de dernier recours, consommer le terme est impropre. Si Pierre Noisa m'écoute, il me dira que l'électricité ne se consomme pas, ça se transforme. Donc, nous, on propose de venir acheter les surplus, tout simplement. Hein. Et la difficulté qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que bah, pour beaucoup, le Bitcoin, ça, c'est quelque chose dont ils ne connaissent absolument rien. Que ce qu'ils entendent dans la presse mainstream, c'est-à-dire que ça sert au blanchiment d'argent, au terrorisme, tout ce que tu veux, et que c'est sale. Et bon, souvent, l'a priori est négatif. Enfin, était négatif jusqu'en 2020. Ça s'est vraiment retourné. Peut-être parce que je popularise le discours, mais pas uniquement. Hein. En tout cas, maintenant, ça devient mainstream. Il y a aussi, tu sais, le patron Monsieur Roque, c'est le patron de Hacker. C'est la plus grosse société d'énergie en Norvège, qui a publié une lettre à ses actionnaires pour dire qu'ils investissaient dans le Bitcoin et qu'ils allaient faire du mining pour consommer leur surplus, pour absorber leur surplus. Le terme exact, c'est ça. Donc, lui aussi a beaucoup popularisé auprès des électriciens le fait que le mining était une solution. Aujourd'hui, ce qui nous reste comme difficulté, tu vois, là, on est sur un projet français actuellement, et ce qui nous reste comme difficulté, c'est de leur faire comprendre qu'on est là, c'est durable comme offre. Parce que pour eux, le Bitcoin, ça peut s'arrêter demain. Et donc, notre boulot aujourd'hui, c'est de les convaincre que non, le mining, s'ils installent du mining aujourd'hui et qu'ils ont besoin sur les 15 ans qui viennent, dans 15 ans, on sera toujours acheteur. Pour nous, le Bitcoin, pour toi comme pour moi, c'est quelque chose qui est installé et qui ne disparaîtra pas. Mais pour les électriciens, ce n'est pas forcément évident. Il faut tout ce temps d'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on fait des conférences auprès de ces entreprises-là quand ils nous le demandent, pour leur expliquer précisément et à tout le board comment ça fonctionne et pourquoi ça va fonctionner et pourquoi Bitcoin est solide et tout ça, quoi. Donc, il y a une vraie acculturation de ces populations-là à faire, bien sûr. Hein. Parce que pour eux, ça leur paraît incroyable que ce clients de dernier recours existent, ils n'en ont jamais entendu parler avant. Parce que, c'est une opportunité folle pour les EL et les énergies renouvelables.
Est-ce que ça veut dire que tu pourrais dire, entre guillemets, aux fournisseurs d'électricité, pendant 10 ans, si tu me vends ton électricité à 5 centimes le kilowatt, t'inquiète pas, je vais être là, quoi. C'est un peu ça que tu leur dis pour les rassurer.
Exactement, oui. Non, bah parce que nous, on est convaincus que le mining de Bitcoin existera encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et bon, c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Et puis surtout, il faut faire sortir ces gens-là des préjugés qui peuvent, comme tout le monde, hein, tout le monde a des préjugés contre le Bitcoin, parce que la presse fait tout pour, hein, il faut bien dire. Donc voilà, notre boulot, c'est souvent de lever ces préjugés, et après, l'évidence économique s'impose d'elle-même. C'est quelque chose de très nouveau, je te dis, dans l'esprit des producteurs d'électricité green, qui s'impose là en ce moment. C'est vraiment, et c'est pour ça que ça fait des années que je dis tout le mining sera vert, enfin en tout cas une énorme partie du mining sera vert, peut-être 95%. Là, je pense que c'est dans les 3, 4, 5 années qui viennent, parce que les hydrocarbures augmentent. Si tu veux miner au charbon aujourd'hui, c'est un très mauvais calcul économique. Nous, on est absolument contre pour deux raisons. D'abord, parce que ça nous surchoque de consommer du charbon pour faire du mining. Ce n'est pas le propos. Ça ne doit pas être ça, le mining. Et parce qu'économiquement, les hydrocarbures augmentant et se raréfiant, la compétition va être totalement déséquilibrée et ceux qui minent au charbon vont être disqualifiés. Au bout d'un moment, la tonne de charbon est à plus de $200 aujourd'hui. C'est une augmentation folle qui s'est produite en 6 mois. Et donc, ça va se répercuter sur le prix de leur kilowatt, c'est certain. Les électriciens ne vont pas continuer à fournir aux mineurs d'électricité à 3 cents si leur charbon, leur matière première, a doublé en termes de prix. Donc, c'est un mauvais calcul économique et à terme, il n'y aura plus de mineurs sur le charbon. Ça continuera à n'exister que dans les pays producteurs de charbon qui feront leur propre mining, comme au Kazakhstan, par exemple.
Parce qu'eux, ils auraient un charbon moins cher que l'acheteur.
Bah, ils le produisent, donc il est fort possible qu'ils aient capacité à utiliser un petit peu de ce charbon pour faire du mining. Je ne sais pas, hein, mais s'il reste du mining au charbon, ça sera par les États producteurs de charbon.
Ouais. Et ça, ce serait en plus parce qu'ils ne le vendent pas à la population, parce que la population, dans tous les cas, paierait plus cher que le mineur. Donc, c'est vraiment des cas très...
Oui, voilà. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de centrales au charbon qui ont des capacités de production très supérieures à ce qu'ils vendent. Mais tant mieux. Hein. Donc, l'idée, ce n'est pas de venir leur apporter de la clientèle pour qu'ils consomment du charbon et qu'ils polluent la planète. Et donc, ces deux facteurs-là, le fait que ce soit ça, les mineurs occidentaux ne veuillent pas de cette électricité-là, surtout le fait qu'on a tous, enfin, ceux qui réfléchissent un peu, parce que beaucoup de gens se lancent dans le mining sans trop étudier le sujet. Si tu réfléchis à long terme, même à moyen terme, parce que moi, l'augmentation du charbon, je l'annonce depuis 1 an et demi, 2 ans, hein, dans toutes mes interventions. Et là, on y est, quoi. Donc, on avait raison sur ce calcul économique. Et nous, ça fait partie de notre stratégie de se dire que nos gros concurrents sur le charbon vont disparaître. Et donc, c'est une opportunité pour les autres parce que, évidemment, ça fait baisser le hash rate ponctuellement. Et puis, on est en capacité après de racheter des parcs de machines d'occasion sur ces producteurs-là s'ils sont obligés de dégager du charbon. Et puis, ils vont se réinstaller sur du green. Donc, petit à petit, tous les mineurs vont aller consommer les surplus sur le green. Il y en a énormément. Il y a de quoi faire tourner 15 réseaux Bitcoin sur les surplus des ENR aujourd'hui.
Ok, ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre comme la compétition est mondiale et décentralisée. La compagnie qui arrive à comprendre la direction future du marché de l'énergie élimine complètement sa concurrence. Quoi. Parce que si quelqu'un avait investi dans une centrale au charbon, là il va se retrouver hors jeu très rapidement parce que c'est juste trompé.
C'est notre pari. C'est notre pari, c'est ce qu'on pense. Et a priori, là, les événements, l'évolution du prix des hydrocarbures nous a donné raison. Bon, peut-être que ça rebaissera hein, les prix des hydrocarbures, mais moi je ne pense pas. Je pense que le pétrole sera raréfié. On le sait, aujourd'hui, on extrait moins de pétrole que ce qu'on consomme tous les ans. Donc, ça veut dire qu'on vit sur des réserves. Je parle du pétrole traditionnel, hein, parce qu'évidemment, après, si on veut aller chercher du pétrole de roche et tout ça, là, avec des systèmes d'extraction qui sont beaucoup plus chers, là, il y a d'autres ressources. Mais sur le pétrole traditionnel, on sait qu'on est arrivé en fin de réserve.
Okay.
Donc, les énergies carbonées vont augmenter en termes de prix, c'est évident.
Et quand tu présentes tous ces arguments à la fois, je dirais, non économiques, aux producteurs, aux électriciens, comment est-ce que c'est reçu? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un rejette alors qu'il a l'argent à gagner?
Sur le discours de l'augmentation des hydrocarbures, vu que nous, on travaille avec des producteurs verts, en général des producteurs d'hydroélectricité, hein, c'est 95% des projets qu'on a aujourd'hui, eux, ils ont conscience de ça. Le pari économique du green sur le noir, eux ils partagent ça. Vraiment, avec les hydroélectriciens, notre travail, c'est vraiment de les convaincre que Bitcoin, c'est un plus pour les populations, pour le social, pour la planète. Et c'est le contraire de ce qu'ils lisent dans la presse. Donc, ça, c'est un travail long. Mmh. Et je te disais, là, je ne peux pas te dire le nom du pays parce qu'on attend la signature du président. Mais on est en train de traiter au niveau national sur un pays d'Asie centrale. Ça fait presque 3 ans qu'on est sur le projet. Il a fallu les convaincre. J'ai fait plusieurs réunions. J'ai un agent sur place qui a fait plusieurs réunions avec le ministère de l'Énergie. Et là, on vient d'avoir le go, le feu vert. Il est allé visiter les différents sites qu'il nous propose là, cette semaine. Donc, ça avance, mais c'est très long parce qu'il y a toute cette conviction à leur apporter.
Ouais. Et l'avantage pour vous, c'est que plus vous en avez convaincu, plus c'est facile, plus ça va vite, quoi.
Ouais, exactement, bien sûr. Quand on peut après amener des projets qu'on a réalisés, leur montrer que ça existe, que ça fonctionne, combien ça rapporte, ça va beaucoup plus vite. Mais évidemment, en ce moment, on est vraiment dans un effet boule de neige et on grossit hyper vite. Mmh. Je vais te raconter la petite anecdote. Je l'avais tweeté. Il y a 2 mois, on a reçu un courrier de notre banque qui nous demandait pourquoi on avait explosé notre chiffre d'affaires comme ça au premier semestre 2021. C'est quand même... Bon, déjà, c'est surprenant qu'une banque te dise pourquoi vous faites autant d'argent. Et vraiment, ça les a surpris parce que bah, tu vois bien, le cours du Bitcoin depuis 18 mois a beaucoup progressé. Notre boulot progresse en même temps. Quoi.
Ouais.
Donc vraiment, on est en développement extrêmement rapide en ce moment parce que ça devient mainstream que le mining de Bitcoin peut être une batterie économique très importante pour les producteurs d'énergie verte, pour les ENR.
Et ça, c'est important parce que parfois, les gens se demandent un petit peu, mais pourquoi le Bitcoin a un tel prix et pourquoi ce n'est pas juste du vent? Ben, il y a cette dimension-là, c'est que économiquement, il y a des acteurs dans le monde qui sont les producteurs d'énergie qui ont ce besoin de vendre leur surplus d'électricité. Puis si quelqu'un peut l'acheter, ben, d'un coup, ça crée un marché qui s'auto-entretient. Donc, ce n'est pas non plus... complètement fou de comprendre pourquoi le prix du Bitcoin monte. Bah, c'est pour ces raisons-là, entre autres. Quoi. Parce que ça fait une plus-value.
Pour effectivement, le Bitcoin, dès lors qu'il est miné en proof of work, a une valeur intrinsèque qui est son absorption d'électricité. Bien sûr, c'est comme ça qu'on a déterminé le prix du Bitcoin au tout début. Des quelques cents, c'était le coût de production du Bitcoin qui déterminait son prix. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. C'est évidemment le marché qui décide du prix. Mais il y a une composante incompressible qui est le mining, bien sûr. Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin ne peut pas descendre en dessous du coût de revient d'exploitation. Hein. Encore une fois, ce n'est pas le mining qui détermine le prix, c'est le marché qui détermine le prix. Mais il y a une composante, voilà, comme l'or. Hein, l'or, il faut aller le chercher. Il a une valeur déjà parce que pour l'extraire, ça coûte cher. Ça fait partie de sa valeur.
Donc là, les mineurs sont très conscients du coût d'exploitation. Est-ce que tu as une idée approximative du coût d'exploitation ou c'est une information que tu gardes pour ne pas dire à la concurrence à combien vous travaillez?
Bon, bah, c'est connu, hein, les mineurs, on cherche l'électricité la moins chère possible. Hein, donc, ça peut être dans certaines régions où tout dépend de la difficulté qu'il y a à y travailler. C'est-à-dire que nous, on va quand même dans des pays qui sont compliqués, dans des régions qui sont très compliquées, parfois avec une géographie qui est très compliquée pour amener des camions, des mineurs. Donc, en fonction de la difficulté qu'on a et de la sécurité qu'on a sur le site, la sécurité, j'entends géopolitique. C'est-à-dire que est-ce que le pays ne va pas nous piquer nos conteneurs, tu vois? On travaille avec pas mal de pays très autoritaires. Donc, on n'a pas la main, hein, c'est eux qui décideront de notre avenir. Donc, en fonction de tous ces critères-là, on détermine le prix. Si on est dans un, par exemple, en France, si on me propose de l'électricité, je suis prêt à l'acheter 5 centimes d'euros.
Okay. Voilà.
Alors que ce n'est pas du tout le prix que je vais donner dans le pays d'Asie centrale que je te propose là, parce que c'est extrêmement compliqué d'y amener notre matériel. Il y a des coûts énormes de transport, de logistique. Donc, on va acheter l'électricité plutôt aux alentours de 2 cents de dollars.
Ok. Et... est-ce que, parce que c'est des coûts d'électricité qui sont vraiment bas là, c'est presque 10 fois moins cher que ce que le consommateur paye, comment est-ce que tu vois ce coût évoluer dans le futur, à la fois pour les mineurs et pour les consommateurs? Est-ce que le coût pour les mineurs va continuer à baisser encore plus bas? Est-ce que le coût des consommateurs va rejoindre comment ça va, d'après toi, évoluer?
Non, le prix d'électricité des mineurs, il a beaucoup baissé jusqu'à fin 2020. Et puis depuis le ban chinois, en fait, la demande chinoise d'électricité à l'international, puisqu'ils peuvent plus miner dans leur pays ou très peu, fait que le prix de l'électricité au global a augmenté. C'est-à-dire que, par exemple, le pays d'accueil premier des mineurs chinois, ça a été le Kazakhstan. Les hosteurs kazakhs ont augmenté leur prix d'électricité d'un cent par kilowatt immédiatement. Donc, nous, on le voit, hein, parce que c'est un pays dans lequel on est très, très bien en termes de mining. On connaît pas mal des gros hosteurs là-bas. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont sur l'hydroélectricité. Et leur prix a augmenté sans aucune raison autre que l'augmentation de la demande. Donc maintenant, on sait que notre concurrence achète le jus plus cher que l'année dernière. Au global, hein, sur la globalité des mineurs mondiaux, le prix a augmenté.
Ok. Et dans 5 ans, 10 ans, vers quoi ça pourrait aller? Est-ce que ce serait plutôt vers une baisse, une stabilisation du prix? Est-ce qu'il y a des gains d'efficacité, par exemple, qui peuvent être possibles en hydroélectricité qui justifieraient une baisse des prix futurs? Ou on est un peu au plancher déjà?
Non, on est au plancher. Il faut que ce soit intéressant pour le producteur. Et pour que ce soit intéressant, il faut quand même que ce soit une manne financière. Donc, quand tu achètes du jus à 3 cents, tu peux faire le calcul, hein, admettons que... faut prendre sa calculette. Regardez, c'est 24 heures sur 24 qu'on va consommer ça, multiplié par le nombre de mégawatts qu'ils sont en capacité de nous proposer. Très vite, tu atteins du 40 000, 50 000, 60 000 dollars par mois pour un mégawatt. Hein, donc, tu mets ça sur l'année, pour peu que les gars aient 10 mégawatts de surplus, c'est énorme. On parle en millions. Donc, pour eux, c'est extrêmement intéressant. Parce que le prix du kilowatt, ça ne veut rien dire. Un consommateur lambda, il va consommer de l'électricité 3 heures dans la journée. Une industrie, elle va souvent consommer 8 heures ou 10 heures dans la journée. Il y a peu d'industries qui font les 3-8. Donc, le minage, lui, c'est 24-24, tous les jours.
Ouais.
Donc, ça fait des sommes considérables au bout du bout.
Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais. Ok.
Ah oui, non, mais c'est ça, parce que si tu te contentes de parler en prix de kilowatt, souvent les gens nous disent, mais ça va pas ou quoi? Vous allez m'acheter mon jus 3 cents de dollars, alors que je le vends 25 cents à la population. Je dis, oui, mais vous en avez plus que ce que la population peut acheter. Et surtout, il ne faut pas réfléchir en termes de prix de kilowatt, il faut réfléchir en termes de facture à la fin du mois. Combien vous allez nous facturer? Et là, si vous nous vendez un mégawatt, c'est 50 000 dollars. Voilà, pour un mégawatt. Si vous nous en vendez 10, c'est 500 000 dollars tous les mois. Et donc, multiplié par 12 mois, ça va vous faire 6 millions de dollars à la fin de l'année. Donc, quand tu leur dis ça, les gars, ils écarquillent les yeux. Ils disent, mais c'est incroyable. Du coup, vous devenez notre plus gros client en termes de chiffre d'affaires.
Attends, est-ce que c'est plus gros client en consommant les surplus?
Oui, bien sûr.
Ah ouais, d'accord.
Donc, ça s'ajoute, si tu veux, à leur chiffre d'affaires. Admettons que l'entreprise fasse 100 de chiffre d'affaires. Ils ont du surplus, ils vont rajouter du mining, et d'un seul coup, ils vont se retrouver à faire 120 de chiffre d'affaires en n'ayant rien investi, en n'ayant rien fait d'autre que de nous laisser venir. Alors, si tu veux toutes les solutions qui permettraient de stocker de l'énergie, il existe des solutions, mais ça coûte cher. Et souvent, c'est des compagnies d'électricité qui sont déjà, qui ont déjà vachement de mal à arriver à l'équilibre. Si en plus, on leur dit, pour pouvoir stocker votre énergie, il faut investir 5 millions, 7 millions, 9 millions d'euros dans des installations qui vont vous permettre de stocker de l'eau, qui va vous permettre. Ils ne peuvent pas les investir, ils ont simplement. Donc, le mining, c'est absolument génial. C'est la seule solution qui leur permet de bouffer leur surplus, de consommer leur surplus, sans investissement de leur part. C'est nous qui gérons les investissements.
C'est ça qui est fou, en fait. C'est que la compagnie d'électricité n'a pas d'investissement à faire parce que vous
Bien
absorbez
sûr que
tous
non.
les risques, en fait. C'est
Bien sûr
votre
que non.
business.
Ils ont une petite, ils ont un petit investissement à faire parce qu'il faut alimenter nos conteneurs. Donc souvent, c'est eux qui se chargent de nous amener le courant haute tension dans les transfos. Et nous, à partir du transfo, le transfo, c'est nous qui le fournissons. À partir du transfo, on gère tout. Donc c'est vraiment des tout petits coûts pour eux, mais minuscules. On parle en quelques dizaines de milliers de dollars, souvent même, ouais, vraiment, enfin tout dépend du nombre de conteneurs. Mais ils ont très très peu d'investissement à faire. C'est une goutte d'eau par rapport à leur chiffre d'affaires, et ça leur apporte énormément d'argent. Donc évidemment que ça se popularise et que c'est en train de se répandre dans le milieu de l'hydroélectricité essentiellement.
Ok. En fait, c'est un peu exactement le parallèle des gars qui vont miner sur les champs de gaz, là. Ils arrivent sur
Oui, c'est exactement la chose.
les puits de gaz et ils disent, on vous met une génératrice, on récupère le gaz, on se fait du Bitcoin. Vous, ça vous
Bien
coûte
sûr.
rien, on amène le conteneur, quoi. C'est la même chose.
Bien sûr. Alors ça aussi, on est dessus. On a plusieurs projets sur du flare gaz. Et là, c'est encore mieux. Parce que pourquoi c'est encore mieux? Parce que non seulement tu les aides, enfin tu leur apportes de l'argent à ces compagnies qui exploitent l'électricité, mais en plus, tu enlèves une sacrée pollution. Parce que les gaz de torchère, c'est brûlé. Et c'est brûlé, et si c'est brûlé à 100%, mais voilà, ça va créer du CO2, mais beaucoup moins que si tu laisses le gaz s'échapper directement dans l'air. On parle de gaz extrêmement polluant, hein, de méthane pour l'essentiel. Et quand tu as du grand vent sur les champs d'exploitation, bah, tu n'as que 50% du gaz qui est brûlé. Et c'est extrêmement polluant. On ne parle pas d'une pollution au CO2, là, on parle directement d'une
Méthane.
pollution au gaz. Et donc là, vraiment, les mineurs qui viennent transformer ce gaz en électricité et consommer l'électricité sur place, bah, ils apportent beaucoup parce qu'ils enlèvent une énorme pollution qui existe aujourd'hui. Sur les champs pétroliers, ils extraient le pétrole et ils ont une montée de gaz qui doit brûler dans les torchères. Et donc, ils payent des amendes énormes pour les torchères. Il y a des amendes environnementales qui font que bah, toutes les compagnies comme Total ou autres payent des amendes sur leur exploitation parce qu'ils brûlent du gaz.
Ah ouais.
Alors la solution de transformer ça en électricité, elle existe bien avant que le mining n'existe, mais souvent, il n'y a pas de possibilité de revendre cette électricité. Imagine une plateforme de forage dans l'Atlantique Nord, par exemple, elle ne risque pas de revendre son jus. Donc évidemment, ils ne mettent pas de génératrice. Mais si on leur dit, vous pouvez transformer ce gaz en électricité, et nous, on achète l'électricité sur place, ben, ça change tout. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça n'existait pas avant le mining. C'était impossible. Donc, le fait de consommer le gaz de torchère, c'est vraiment quelque chose d'hyper sain pour la planète. Et le mining permet ça. Personne, aucune autre industrie ne permettait ça.
Ouais, ok, c'est cool, c'est quand même incroyable parce que c'est vraiment pour montrer que peut-être l'endroit où le Bitcoin a le plus d'impact, je dirais, très concret, c'est l'industrie de l'énergie, quoi, et de
Ah
manière,
oui, bien sûr, bien sûr,
dramatique.
bien sûr. Moi, ça fait des années que je dis que les mineurs de demain, ça sera les compagnies d'électricité. C'est une évidence. C'est une évidence. Ils vont comprendre petit à petit l'intérêt du mining. Mais tu veux, moi, depuis 2017, je tanne le gouvernement, l'Assemblée et tout ça pour expliquer qu'en France, on devrait mining sur le nucléaire. Il y a la place. Parce que là aussi, on a un parc qui est situé, qui est dimensionné pour répondre aux pics. Mais les pics, ce n'est pas toute l'année. Donc, on aurait de la capacité de mettre peut-être 100 mégawatts en France tout de suite,
100 mégawatts.
Sans que ça impacte du tout le marché de manière négative. Parce que, encore une fois, c'est souple. Tu éteins tes conteneurs quand on arbitre avec le mining. C'est-à-dire que le mining s'éteint dès que la demande augmente, dès que les pics arrivent.
Ouais. Donc en fait, ce que tu dis finalement, c'est que tu as une manne financière d'environ 600 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, vu que c'est 100 mégawatts, tu disais que c'est précis.
Non, mais là je dis 100 mégawatts, mais à mon avis, c'est même beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que 100 mégawatts, c'est 100 conteneurs. C'est certain que sur le parc électrique français, ça loge tranquille, sans déséquilibrer du tout l'offre. Donc là, c'est une question d'ouverture d'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont opposés à l'idée même de regarder ça.
C'est fou, ça veut dire que tu prives les Français de millions d'euros parce que tu es fermé d'esprit, quoi. C'est quand même.
Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Hein. Aujourd'hui, EDF a 3 milliards de trous. Ils sont en train de licencier des agents et tout ça parce qu'ils sont en difficulté. Si on avait miné depuis 2017, c'est ce que je leur proposais, les 3 milliards, on les avait. Hein.
Putain.
Ah oui.
C'est fou.
Et tout ça par conformisme. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant parce que EDF s'est penché sur le mining avec nous dès 2016-2017. Et qu'est-ce qu'ils en ont sorti? Ils en ont sorti une société qui s'appelle Exalion, donc qui s'est spécialisée dans les crypto-monnaies et tout ça. Mais leur protocole référent, c'est Tezos. C'est-à-dire un protocole qui n'est pas en proof of work. Ça n'a aucun sens. Pour un électricien, l'idée, c'est de faire du vrai mining.
C'est de l'incompétence. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, c'est une honte. C'est honteux, quoi.
Et pourtant, les promoteurs de Exalion, justement, sont des gens qui, eux, ont compris, si tu veux. Mais au sein, j'ai l'impression, je ne veux pas du tout jeter la pierre, mais c'est un énorme navire, EDF. J'ai l'impression que c'est très politique et que non, le Bitcoin s'est fermé. Voilà. Moi, je me souviens des réunions qu'on faisait en 2017. Dans les rapports des réunions, le mot Bitcoin ne pouvait pas apparaître. Mm-hmm. On mettait blockchain. Voilà. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est quand même la monnaie Bitcoin propose quand même d'enlever cette manne financière qui est la monnaie d'État. Hein. Donc, tu enlèves du pouvoir à l'État dès lors que tu proposes une monnaie concurrente. Donc, il y a eu une levée de bouclier qui est en train d'être réduite aujourd'hui. Les gens commencent à comprendre. Mais en 2016-2017, non, Bitcoin, c'était un espèce de caillou dans la chaussure des États et ils ne voulaient pas en entendre parler. Et EDF est une société d'État.
Ok. Et à qui est-ce que je dois envoyer ce podcast pour qu'il change d'avis chez EDF?
Ah bah, ça ne les fera pas changer d'avis parce que là, le discours qu'on a eu est très critique, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas un problème humain. C'est vraiment un problème de conformisme global de l'État français.
Ah, un peu plus. Ok. Ça reste un problème humain, mais plus large, c'est ça?
C'est pas la direction d'EDF qui est anti-Bitcoin, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'on est dans un tel conformisme anti-Bitcoin que c'est compliqué d'avancer dans ce domaine-là. Et moi j'ai écrit une note à Bruno Le Maire en 2018. Il y avait eu la Blockchain Week à Paris, il nous avait reçus à Bercy, et il avait fait un discours en expliquant que oui, en France, on allait faire une blockchain plus propre, tout ça. Donc, je l'avais poursuivi dans l'escalier quand il a quitté la scène. J'ai discuté avec lui dans l'escalier à Bercy. Et je lui ai dit, écoutez, là, vous faites une fausse idée de ce qu'est la blockchain, de ce que c'est que la proof of work, le mining, le bitcoin. C'est un avantage énorme pour les électriciens. Or, la France est le pays d'Europe qui est le plus avancé en termes d'électricité. On est un gros producteur avec nos centrales nucléaires. Il faut voir les choses différemment. Il m'avait dit, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Faites-moi une note et je recevrai à Bercy. La note, il l'a eu 3 jours après. Et j'attends toujours le rendez-vous.
Ah.
Voilà. Okay. ce qui est fou, tu vois, c'est que là, je suis au Salvador. J'ai rendez-vous de l'énergie, sans problème. Au Kazakhstan, j'ai rencontré le ministère de l'énergie, pas le ministre, hein, un vice-ministre. Au Tadjikistan, je discute directement avec le Premier ministre. Et en France, je n'ai pas accès aux politiques. Ils veulent pas me recevoir. Et je suis français, quoi. Tu vois, c'est quand même fou. Je travaille avec des gouvernements de 7 pays en ce moment. Et ils me reçoivent et ils trouvent ça très intéressant. Et en France, j'arrive pas à être reçu, j'arrive pas à expliquer l'évidence économique.
C'est marrant parce que je crois que c'est dans la Bible, ils disent que les prophètes sont toujours mal reçus dans leur propre pays, donc peut-être que c'est la prophétie qui se répète.
Nul n'est prophète en son pays. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. On a vraiment aujourd'hui, pas de la facilité, mais on arrive à rencontrer les autorités politiques dans différents pays, en Afrique notamment, hein, mais aussi en Asie centrale, ici en Amérique du Sud. Tu vois, là, je dois aller au Mexique très, très bientôt. Là, j'ai rendez-vous avec le ministère de l'énergie. C'est quelque chose qui est normal. C'est eux que ça concerne en premier lieu. Et ben, en France, j'y arrive pas. En France, je n'y arrive pas. J'ai l'impression de me heurter à un mur.
C'est fou. C'est comme une réticence à améliorer dans la société, quoi, littéralement. Je veux dire, je ne peux pas le dire autrement. C'est de l'argent gratuit. Avec l'argent gratuit, tu peux faire des écoles, tu peux faire des autoroutes, tu peux faire n'importe quoi. Et puis là, tu dis non,
je sais pas. Non, on ne veut pas Bitcoin, c'est sale, c'est dégueulasse. Non. C'est le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est ce qu'on entend toujours. Tu veux, mais peut-être qu'au sein du ministère de l'Énergie en France, de EDF, et tout ça, ils ont fait le calcul et ils se disent c'est pas valable pour nous, c'est possible qu'ils nous l'expliquent. Parce qu'à mon avis, c'est une erreur. Je suis convaincu qu'on n'a pas à faire travailler des conteneurs de mining en quantité en France et que ça apporterait beaucoup. J'en suis convaincu, je voudrais qu'on me prouve le contraire. Et pour l'instant, personne ne sait me dire que non, c'est pas possible, que mon calcul est mauvais, qu'il n'y a pas de place du tout. Là, j'en veux pour preuve que Bruno Le Maire explique que d'ici 2030, on aura 9 terawatts de génératrices d'hydrogène vert sur notre nucléaire. Ça veut dire qu'on a la place de le faire, cet hydrogène vert sur nos centrales nucléaires. Et on a la place dès maintenant. Comment tu vas faire 9 terawatts de puissance électrique pour faire de l'hydrogène vert si on n'a pas de surplus? Ça veut bien dire qu'on a la capacité de les produire.
Ouais.
Donc, on a la capacité de faire 9 terawatts de mining aujourd'hui. Voilà, enfin, j'exagère parce que j'imagine qu'il a inclus les nouvelles centrales nucléaires françaises d'ici 2030, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on a la place de faire de l'hydrogène vert, ça veut dire qu'on a de la place de faire du mining.
Ouais. Et en plus, c'est même pas contradictoire parce que si tu veux faire de l'hydrogène vert en 2030, bah, il te reste quand même 9 ans d'ici là pour mettre des mineurs que tu peux enlever après et les mettre ailleurs.
Donc, absolument.
Même aucune absolument. Raison. Ça accélérerait. En fait, ça diminuerait même les coûts d'hydrogène vert. Donc, même si ta politique est pour l'hydrogène pour une raison X ou Y, de toute façon, tu as intérêt à le faire. Je veux dire, c'est de l'argent gratuit quoi qu'il arrive. C'est fou.
Ah oui, c'est fou. C'est fou. L'hydrogène, en fait, c'est une espèce de batterie énergétique. Alors que le mining, c'est juste une batterie économique à simple entrée. C'est-à-dire que tu transformes tes mégawatts en monnaie sonnante et trébuchante. Alors qu'avec l'hydrogène, tu vas transformer ton électricité en hydrogène que tu vas redistribuer pour refaire de l'électricité plus loin. Donc, l'hydrogène, attention, hein, c'est pas du tout stupide. Et tant mieux si ça se développe et tant mieux s'il y a moins de place pour du mining parce que l'hydrogène aura pris le relais. Ouais. Mais en attendant, on n'y est pas. On n'y est pas, il y a de la place, quoi.
Puis il faut le financer, enfin, le projet.
Enfin, j'en suis convaincu qu'il y a de la place. Encore une fois, je ne suis pas le patron d'EDF et je n'ai peut-être pas toutes les données. Et peut-être qu'ils sauront m'expliquer que non, il n'y a pas la place pour du mining en France. Mais j'aimerais bien qu'on ait ce débat.
Ouais, ce serait top. Peut-être surfing Bitcoin l'année prochaine, qui sait.
Mais en tous les cas, ça progresse, bien sûr, parce que plus le Bitcoin devient accepté dans les mentalités de tout le monde, plus il y a de politiques qui le portent. Aujourd'hui, il y a quand même des députés qui, comme Pierre Person qui va à l'Assemblée pour parler du Bitcoin. Ça se répand petit à petit et les gens commencent à en avoir de moins en moins peur. Mais a priori, pour les États et pour les entreprises d'État, bah, ça fait peur, le Bitcoin.
Ouais. OK, je pense qu'on peut bientôt clôturer ça pour ne pas avoir trop d'informations d'un coup en une
seconde.
Est-ce que...
C'est un sujet hyper vaste et c'est très compliqué. C'est très compliqué à comprendre quel peut être l'intérêt du mining pour les producteurs d'électricité. Bon, c'est pas facile de le faire en 10 minutes dans un podcast, mais là, on a dit l'essentiel. Et ce que j'ai pas encore dit là, qu'on avait dû dire dans la première partie, qui a pas été enregistrée, c'est que le mining est appelé à devenir green partout parce que les hydrocarbures augmentent de manière irrépressible. Et donc forcément, ça nous donne un avantage à nous mineurs green. Un avantage concurrentiel qui fait que à terme tous les mineurs sur le charbon vont être obligés de déménager sur des surplus, et les surplus il y en a partout, il y a de quoi faire 15 réseaux Bitcoin rien sur les surplus des ENR dans le monde aujourd'hui, c'est évident, et je dis 15 au pif mais c'est peut-être beaucoup plus.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis les mineurs vont déménager, c'est pas comme si les mineurs qui minaient sur le charbon aujourd'hui allaient comme exploser, disparaître, ils vont juste prendre leur machine et aller sur des projets renouvelables. Donc, ça voudrait dire que les mineurs qui sont actuellement sur du charbon vont peut-être se déplacer vers des centrales hydroélectriques ou vers des gaz qui sortent des puits de pétrole, par exemple.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est évident. L'augmentation du prix du charbon va se répercuter sur le prix du kilowatt. Ça va les disqualifier. Là, en ce moment, ce n'est pas disqualifiant. Même si leur jus augmente double en prix, c'est tellement margeux de faire du Bitcoin, aujourd'hui du mining, qu'ils peuvent continuer. Mais ça va pas durer. Il y a bien un moment où le hash rate va se réinstaller parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on a encore moins de hash rate que l'année dernière à cause du ban chinois.
Ouais.
Donc, ces machines existent, elles sont là dans les cartons. Elles vont se réinstaller quelque part. Donc, le hash rate aujourd'hui doit être à 170, je crois, quelque chose comme ça, exahash. Et il était à 207 en pointe l'année dernière. Donc, il va revenir à 207, c'est certain. Et en plus, les fabricants continuent à fabriquer des machines. Donc, au-delà de ces 207, il est tout à fait raisonnable d'envisager qu'en 2022, on ait 300 exahash de mining. Et donc, oui, bien sûr, où ils vendront leurs machines, ceux qui sont sur le charbon. Et si on remonte à 300 exahash, ça sera beaucoup moins rentable de miner. Et si le kilowatt charbonné a doublé en prix, ils seront disqualifiés. Ils seront obligés d'arrêter leur exploitation et de mettre leur machine ailleurs. Ou de les revendre ou de les installer eux-mêmes ailleurs. Et donc, ça se diffusera sur des énergies vertes. C'est pour ça que je dis que dans, à très courte échéance, le mining sera totalement green et que c'est la seule industrie qui est capable de faire ça. Parce que c'est la seule industrie qui est capable d'aller consommer l'électricité là où elle est disponible, là où il y a des surplus.
Cool, c'est un beau mot pour conclure. C'est parfait. Merci beaucoup Seb pour toutes ces informations. C'est top, franchement, c'est top.
Je t'en prie, si tu as envie de leur faire un sujet, je suis à ta disposition.
Parfait, merci.
Eh bien, bonjour du Salvador et puis à très bientôt.
Merci, salut.